Bienvenue à News in Slow French, un programme plein d'apprentissage et de divertissement. Nous sommes le jeudi 20 avril 2017. Bienvenue pour notre programme hebdomadaire News in Slow French. Bonjour à tous nos auditeurs.
Salut Catherine, bonjour à tous.
Avant d'annoncer le programme d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour remercier tous nos abonnés qui ont pris le temps de participer à notre sondage en ligne sur le Speaking Studio. Cela nous aide à comprendre comment améliorer cette super fonctionnalité et la rendre accessible à un plus grand nombre d'abonnés.
Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, remplissez ce sondage et dites-nous quelle est l'heure qui vous convient le mieux pour participer au Speaking Studio.
C'est juste, Bruno.
Bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous parlerons des tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis qui ont abandonné leur politique de stratégie de la patience envers la Corée du Nord. Nous poursuivrons avec les résultats du référendum organisé dimanche en Turquie. Nous discuterons d'une étude qui traite des avantages de la course à pied et nous conclurons avec l'annonce officielle faite par les États-Unis, le Canada et le Mexique d'une candidature conjointe pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026.
Excellent, Catherine.
Mais ce n'est pas tout, Bruno. La deuxième partie sera consacrée, comme toujours, à la culture et à la langue française. Dans la section grammaticale de notre programme, nous reverrons les locutions conjonctives « à ce que », « à condition que », « afin que », « ainsi que » et « alors que ». Et nous conclurons notre émission avec l'expression française « poser un lapin ».
Je suis prêt à commencer, Catherine.
Très bien, Bruno. Alors, commençons notre émission.
Les tensions et la menace d'une guerre augmentent entre les États-Unis et la Corée du Nord.
Hier, le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a promis qu'en cas d'attaque militaire de la Corée du Nord, la réponse des États-Unis et de leurs alliés serait écrasante. Les déclarations de Pence à la base navale des États-Unis au Japon interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Nord suite à la série d'essais nucléaires qu'elle a récemment réalisée. Lors d'une visite en Corée du Sud lundi, et de discussions avec le premier ministre japonais, Shinzo Abe, mardi, Pence a déclaré que les États-Unis s'engageaient à travailler aux côtés de leurs alliés pour résoudre cette crise de manière pacifique, mais que toutes les options sont sur la table. Dans le même temps, Pyongyang a déclaré qu'il continuerait à tester des missiles et était prêt à lancer une frappe nucléaire s'il pensait que les États-Unis planifiaient une attaque. L'approche américaine envers la Corée du Nord sous la présidence de Donald Trump se démarque de la patience stratégique de Barack Obama. Cette approche visait à inciter la Corée du Nord à négocier la fin de son programme nucléaire grâce à un large éventail de sanctions.
Catherine, est-ce que les deux pays ont juste haussé le ton ou devons-nous nous préparer à ce qu'un conflit nucléaire éclate à n'importe quel moment? Je ne sais vraiment pas quoi penser.
Hausser le ton? Je pense que c'est aller beaucoup plus loin que ça. À ton avis, que voulait dire le vice-président Pence en déclarant que la politique de patience stratégique avait été un échec?
Je ne sais pas.
En fait, je ne suis pas sûre non plus de savoir ce que ça veut dire. Le vice-président n'a pas donné d'explication.
Est-ce que ça pourrait signifier que Washington a fixé la ligne rouge à ne pas franchir?
Je n'en suis pas sûre. Cependant, Trump s'est peut-être enhardi après la crise aérienne américaine en Syrie d'il y a 2 semaines. Une majorité d'Américains et de nombreux dirigeants du monde ont soutenu cette frappe.
Je suis sûr que ce soutien l'encourage.
Et gagner l'approbation de la population pourrait encourager Trump à entreprendre une action militaire contre un autre régime que les États-Unis jugent problématique?
Peut-être, oui. En tout cas, nous ne connaîtrons pas la réponse puisque le président aime être imprévisible. Erdogan remporte un référendum historique en Turquie.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a revendiqué la victoire dimanche dernier lors du référendum sur la modification de la constitution du pays et l'octroi de nouveaux pouvoirs au président. Le résultat officiel du vote a été de 51,4% de oui et 48,6% de non. Bien que les observateurs électoraux et les groupes d'opposition aient remis en question le résultat. Ce vote fait passer le gouvernement turc d'un système parlementaire à une république présidentielle. Il élimine le rôle du Premier ministre et permet à Erdogan de contourner le Parlement en nommant les ministres et en promulguant certaines lois. Erdogan sera également en mesure de choisir la majorité des juges de la plus haute cour de justice turque, de dissoudre le Parlement et de déclarer l'état d'urgence. Il pourra aussi se présenter à 2 autres mandats de 5 ans, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Les groupes d'opposition et les observateurs des élections ont contesté les résultats, ayant noté des irrégularités. Il y a eu notamment une modification des règles alors que le vote avait déjà commencé. Les bulletins censo officiels ont été acceptés, ce qui a pu permettre aux urnes d'être remplies de oui.
Catherine, une remarque faite par Erdogan il y a quelques années semble très pertinente aujourd'hui.
Laquelle?
Il a dit « La démocratie est comme un train, on en descend une fois arrivé à destination. » Avec ce référendum, Erdogan devient au fond un dictateur.
C'est difficile d'imaginer que cela se produise dans un pays qui était considéré comme un modèle en termes de démocratie dans le monde musulman il n'y a pas si longtemps. Ce ne sera pas facile pour la Turquie d'aller de l'avant avec une population aussi divisée.
Oui, mais j'aimerais ajouter autre chose, Catherine. Ce changement de constitution et son effet profond sur la Turquie mettent l'Europe dans une position difficile. L'UE continuera à avoir besoin de la coopération de la Turquie pour contrôler le flux de réfugiés. La Turquie joue également un rôle important dans le processus de paix en Syrie.
Exact. L'Occident ne peut pas se passer de la Turquie pour gérer les nombreux problèmes de la région.
Courir peut augmenter de 3 ans l'espérance de vie, selon des chercheurs.
La course à pied pourrait bien être l'exercice le plus efficace pour allonger son espérance de vie. C'est en tout cas ce que suggère une étude publiée le mois dernier dans la revue Progress in Cardiovascular Disease. Cette étude a révélé que courir pendant 1 heure pourrait ajouter 7 heures à la vie d'une personne et que, dans l'ensemble, les coureurs peuvent s'attendre à vivre 3,2 ans de plus que les non-coureurs. Les chercheurs ont analysé les données de plusieurs études qui examinaient le lien entre l'exercice physique et la mortalité. Ils ont constaté que la course réduisait le risque de décès prématuré de 25 à 40%, même quand cette habitude était contrebalancée par des comportements tels que le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, ou quand une personne souffrait de problèmes de santé comme l'obésité et l'hypertension. Selon les chercheurs, d'autres formes d'exercice comme la marche et le vélo ont des effets positifs sur l'espérance de vie, mais pas aussi prononcés que ceux de la course. En plus d'aider à contrôler le poids et la tension artérielle, les chercheurs disent que la course pourrait prolonger la vie parce qu'elle améliore la capacité cardio-respiratoire, qui est un indicateur bien connu de l'état de santé à long terme.
Catherine, le problème avec les études de ce genre, c'est qu'elles ne prouvent pas que la course à pied allonge l'espérance de vie.
Mais si, je viens de te lire les conclusions de ces recherches.
Tu as lu que les coureurs ont tendance à vivre plus longtemps, mais comment savoir si c'est la course à pied qui en est la cause? Et si d'autres facteurs étaient en jeu, comme ce que les coureurs mangent par rapport aux personnes qui ne courent pas?
Ton argument est valable, Bruno. Les auteurs admettent que l'étude établit une corrélation, mais pas un lien de causalité. Certains pourraient dire que les gens qui ont l'habitude de courir ont tendance à avoir un mode de vie plus sain qui augmente leur espérance de vie.
Exactement.
Néanmoins, cette étude suggère fortement que la course à pied est plus efficace que d'autres formes d'exercice.
Et si la course est synonyme de longévité parce qu'elle améliore la condition cardio-respiratoire, que dire de la danse ou du tennis?
Je ne sais pas combien de formes d'exercice ont été analysées par les chercheurs, mais j'imagine que d'autres activités physiques intenses aideraient aussi à vivre plus longtemps, non?
Eh bien, personnellement, je pratique les sports que j'aime. Après tout, à quoi bon vivre plus longtemps si on passe son temps à faire des choses qu'on n'aime pas?
C'est intéressant que tu parles de ça, Bruno. En ce qui concerne la course, les chercheurs ont conclu qu'elle nous donne plus de temps que nous n'en dépensons pour cette activité.
Que veux-tu dire?
Eh bien, c'est mathématique. Un coureur typique passe environ 6 mois à courir sur une période de 40 ans, mais cela pourrait lui permettre de vivre 3,2 années de plus.
Les États-Unis, le Canada et le Mexique lancent une candidature conjointe pour la Coupe du Monde 2026.
Lundi dernier, les États-Unis, le Mexique et le Canada ont annoncé une candidature conjointe pour la Coupe du Monde 2026. C'est la première fois que 3 pays proposent d'accueillir ensemble cet événement. Même si la décision finale ne sera annoncée qu'en mai 2020, les analystes estiment que cette offre a beaucoup de chances de gagner. Dans le cadre de cette candidature, les États-Unis accueilleraient 60 des 80 matchs du tournoi, tandis que le Mexique et le Canada recevraient 10 matchs chacun. La Coupe du Monde 2026 sera la première à comprendre 80 matchs et 48 équipes, contre 64 matchs et 32 équipes actuellement. Bien qu'il n'ait pas encore de concurrent, le Maroc pourrait aussi présenter sa candidature. Les pays européens et asiatiques sont exclus de l'offre, car la Russie et le Qatar accueillent respectivement les tournois en 2018 et 2022. Malgré les tensions qui existent entre les États-Unis et le Mexique, le président américain, Donald Trump, semble soutenir pleinement cette candidature conjointe. Le président de la Fédération de football des États-Unis, Sunil Gulati, a déclaré « Nous ne croyons pas que le sport peut résoudre tous les problèmes dans le monde, mais c'est un signal extrêmement positif.
On dirait une campagne de relations publiques. C'est le projet des États-Unis déguisé en candidature conjointe. Non seulement il accueillerait 3/4 des matchs, mais il les organiserait tous à partir des quarts de finale. Quel genre d'offre conjointe est-ce là ?
Je suis sûre que beaucoup de Mexicains sont de ton avis. La tradition du football au Mexique a une histoire plus longue et plus riche qu'aux États-Unis. Mais la réalité, c'est que les États-Unis auraient pu aussi présenter seuls leur candidature et gagner, ce qui n'aurait laissé aucun match au Mexique et au Canada.
Quand même, les États-Unis semblent un peu radins, non ? Pourquoi le Mexique et le Canada ne pourraient-ils pas avoir, ne serait-ce qu'un des derniers matchs de la compétition ? Au lieu de cela, on dirait que les États-Unis tentent de promouvoir un message d'unité, mais sans faire de concessions.
L'argent.
Quoi ?
Peut-être une question d'argent. Les États-Unis dépenseront beaucoup plus d'argent pour le tournoi que le Mexique ou le Canada. Pour quelle autre raison ne devraient-ils pas accueillir plus de matchs ? Les États-Unis ont aussi beaucoup plus de grands stades que les deux autres pays.
Je sais. Je sais aussi que la Coupe du Monde de 1994, que les États-Unis ont accueilli, a vendu plus de billets que n'importe quelle autre Coupe du Monde. Donc, la FIFA serait probablement contente de cet arrangement.
Puis on continue avec la grammaire, un mal nécessaire.
Des conjunctive phrases, à ce que, à condition que, afin que, ainsi que, and, alors que.
Que nous parlions d'un sujet particulier, Bruno, aujourd'hui ?
Je tenais à ce que nous discutions de la fée verte.
Tu vas devoir me donner quelques indices afin que je devine de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un personnage de conte ?
Peut-être que ça existe, mais non. Réfléchis.
La fée verte me fait penser à l'expression « fée du logis ». Donc, en toute logique, je m'attendrais à ce que ce soit un produit ménager écologique.
Non, mais c'est bien un produit. Pendant des années, on a dit qu'il était dangereux alors qu'il est inoffensif, à condition qu'on l'utilise correctement. La fée verte est même bénéfique. Elle a aidé les soldats français ayant colonisé l'Algérie à lutter contre la malaria. Et ce sont eux qui l'ont rendue populaire.
C'est une plante alors ?
Ainsi qu'une boisson.
C'est l'absinthe qui était interdite en France jusqu'à récemment.
Exact. Jusque dans les années 2000, alors qu'aucun autre spiritueux n'a été traité de la sorte. Quel complot injuste.
Tu penses que la fée verte a été victime d'un complot ? Pourtant, tout le monde sait que l'absinthe était la boisson des poètes, ainsi que des peintres, et qu'elle a rendu certains d'entre eux fous. Pense à Baudelaire. Ou à Van Gogh.
S'ils avaient veillé à ce que leur consommation reste raisonnable, ils n'auraient eu aucun problème avec l'absinthe, car sa toxicité n'a jamais été prouvée.
Vraiment ? Alors pourquoi l'interdire ? Elle doit forcément contenir une substance spéciale. Sinon, les autorités n'auraient pas veillé à ce qu'elle reste interdite autant d'années.
La substance incriminée est la thuyone. Et sa teneur fait toujours l'objet de contrôles stricts, alors qu'elle n'est dangereuse que si on ingère plusieurs litres d'absinthe. C'est donc l'alcoolisme qui rendait malades Oscar Wilde et Vincent Van Gogh, pas l'absinthe.
Tu penses qu'ils en buvaient tant que ça ?
Oui, à l'époque, elle était si populaire qu'elle représentait la majeure partie des apéritifs consommés. La capitale de l'absinthe, Pontarlier, comptait à un moment 25 distilleries qui employaient 3000 personnes. Les gens buvaient en moyenne 12 verres d'absinthe par jour, alors que c'est un alcool à plus de 45 degrés.
je comprends mieux pourquoi l'absinthe inquiétait les médecins.
Ainsi que les viticulteurs. D'où le slogan « Tous pour le vin contre l'absinthe ».
Tous pour le vin. Ils auraient pu trouver un meilleur slogan afin que l'alcoolisme régresse. Et comment les distilleries ont-elles survécu après l'interdiction ?
Elles ont commencé à produire des boissons à base d'anis qui plus tard ont donné naissance au pastis.
Et aujourd'hui, est-ce que les Français consomment beaucoup d'absinthe ?
Non, pas énormément. Le spiritueux à base d'absinthe, d'anis, ainsi que de fenouil, qu'on appelle l'absinthe, est surtout populaire dans sa terre natale, entre la France et la Suisse. Les Antillais, eux, mettent une branche d'absinthe.
Dans le rhum, j'imagine.
Oui, avec une gousse de vanille, du citron vert et de la cannelle. Cette boisson tonifiante et antiparasitaire s'appelle le décollage.
Pour résumer notre discussion, on peut dire que la fée verte en a vu des vertes et des pas mûres.
Et même de toutes les couleurs.
On termine avec les expressions idiomatiques au goût chic.
Poser un lapin, to stand someone up, to make an appointment and not show up. Es-tu amatrice d'énigmes et de mystères à résoudre, Catherine ?
Bien entendu. J'aime la littérature policière, mais aussi les devinettes, les énigmes et les paradoxes. J'apprécie aussi beaucoup les chasses au trésor.
Je te comprends. Les chasses au trésor ne sont pas que pour les enfants. Il paraît qu'il y en a énormément qui sont organisées chaque année en France. Certaines ont lieu pendant toute une journée dans les grandes villes.
Et que dirais-tu d'une chasse au trésor organisée à l'échelle de la France entière ?
Pourquoi pas ? Mais la tâche paraît trop difficile.
Tu n'as jamais entendu parler de la chasse au trésor appelée sur la trace de la chouette d'or ?
Non, jamais.
Eh bien, c'est tout simplement la plus longue chasse au trésor au monde. Elle n'est toujours pas résolue, et ça depuis 1993. Je voulais y participer avec une amie, mais devant la difficulté des énigmes, elle m'a posé un lapin. Du coup, j'ai jeté l'éponge, moi aussi.
Tu veux dire que plus de 20 ans plus tard, personne n'a trouvé la solution ?
Il semble bien que non.
Mais en quoi constitue l'énigme ?
Pour que des joueurs de la France entière puissent participer, les énigmes ont été rassemblées dans un livre qui a été réédité de nombreuses fois. Il y a 12 énigmes qui sont très ardues et qui sont censées indiquer à la fin l'emplacement d'une contremarque en bronze, permettant de récupérer une sculpture de chouette en or et diamant d'une valeur de 150 000 euros.
Intéressant.
Ce qui est le plus intéressant, c'est la résolution des énigmes en elles-mêmes. Imagine leur difficulté, car des milliers de joueurs se creusent la tête depuis 20 ans. Il y a bien entendu toute une communauté qui cherche et qui discute sur le net. Les inventeurs eux-mêmes ont donné des indices au cours du temps.
Je suppose quand même que certaines des énigmes ont été résolues.
Oui, la plupart des solutions sont connues, mais l'emplacement exact de la contremarque demeure inconnu.
Et les concepteurs du jeu n'ont jamais révélé la solution ?
L'inventeur, Max Valentin, est décédé en 2009. Il a cependant dit qu'il avait pris ses dispositions pour que le jeu continue, pour ne pas poser un lapin aux joueurs. Mais en fait, il y a eu un imbroglio judiciaire autour du jeu, et personne ne sait vraiment si la contremarque est toujours à sa place et si la chouette d'or va être récupérée un jour.
C'est dommage.
Oui, la chasse a duré beaucoup plus longtemps que prévu, ce qui a finalement pas mal gâché le jeu.
Je crois que ta copine a bien fait de te poser un lapin. Tu serais sans doute encore en train de chercher la solution.
Sûrement. Si tu as l'occasion, regarde un peu les énigmes. Et qui sait, peut-être que ce sera toi, Bruno, qui trouvera.
S'il reste encore quelque chose à trouver. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui participent toujours à cette chasse au trésor. J'espère vraiment pour eux que la chouette ne va pas leur poser un lapin. Bon, bah, c'était une très bonne lecture, Catherine. Merci et nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt à tous nos auditeurs.
Merci Bruno, merci à tous nos auditeurs et nous vous retrouvons donc la semaine prochaine. Salut!